Bonjour, mes frères. Ce message s'inscrit dans la continuité du récent sermon de M. Pack sur le souvenir. Vous comprendrez ce que je veux dire. Il y a environ 3 ans, j'ai prononcé un sermon intitulé « La prophétie prouve l'existence de l'Église de Dieu ». J'ai commencé ce message en disant ce qui suit. Je vais simplement vous lire presque mot pour mot ce que j'ai dit. Il s'agit d'un sermon intemporel sur la prophétie, auquel nous pouvons revenir si jamais nous nous trouvons à remettre en question notre compréhension de la prophétie. J'ai donc décidé de revenir en arrière et de réécouter ce message. C'était un sermon intemporel sur la prophétie. Il n'y avait absolument rien à redire. Il était toujours d'actualité après 3 années complètes. Il y avait un petit détail concernant la sixième tête qui avait changé. Mais à part cela, je recommanderais à chacun d'entre nous de revenir à ce message de mars 2023 et de l'écouter à nouveau. Parce qu'il était intemporel. Et il prépare très bien ce sermon. Ce dont j'ai parlé à l'époque et ce dont nous allons parler aujourd'hui était une prophétie de très haut niveau. L'objectif est de nous aider tous, et aujourd'hui, de nous aider à rester ancrés dans la vision d'ensemble de la prophétie. Il est très facile de se perdre dans les détails. La prophétie comporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Et M. Pack passe en revue beaucoup de détails dans ses messages. Mais ce que nous allons entendre aujourd'hui et ce que vous avez entendu il y a 3 ans, ce sont des messages qui aident à jeter les bases de ce dont parle M. Pack. Ainsi, si vous êtes nouveau dans l'Église, si vous n'êtes pas venu depuis un certain temps, ou peut-être si vous avez simplement oublié, et que vous êtes dans l'Église depuis longtemps, nous vous rappelons maintenant les éléments fondamentaux qui constituent la base de ce dont M. Pack parle régulièrement. J'ai dit il y a quelques années, dans le dernier message, que la prophétie est comme un terrain de football. Pensez à un terrain de football ou de soccer. Vous allez sur ce terrain de soccer, et 99,9% de ce que nous comprenons et avons enseigné dans la prophétie est réglé. C'est fait. Il n'y a pas vraiment d'ajustement ou de changement à apporter, et c'est pourquoi, après 3 ans, rien n'a changé. Les mêmes vérités dont j'ai parlé il y a 3 ans sont toujours valables aujourd'hui. Nous parlons de ce dont nous parlons souvent régulièrement, et M. Pack se concentre sur la partie que nous ne comprenons toujours pas. C'est un peu comme si vous alliez au fond de la zone d'en-but ou près du but ou dans un coin du terrain de football et que vous parliez d'un espace d'environ 1 mètre sur 1 mètre avec lequel nous essayons encore de nous débattre et de comprendre, alors que le reste du terrain de football est réglé. Le reste du terrain de football est réglé. Le reste du terrain de football est le sujet de ce message. Tout au long de cette série, nous avons été confrontés à des doutes, mais j'espère que ces messages nous stabiliseront. Lorsque nous nous souvenons des doctrines fondamentales de la prophétie, elles nous stabilisent. Elles nous ancrent. Elles nous enracinent et nous aident à. Le but de ce message est de prouver, à travers la prophétie, que cette Église est la seule véritable Église de Dieu. Ainsi, lorsque nous nous souvenons, car il est très facile d'oublier, lorsque nous nous souvenons de la vision d'ensemble de la prophétie, nous quittons le message d'aujourd'hui, et après avoir écouté l'autre message que j'ai donné il y a 3 ans, vous quitterez ce message en vous disant, où pouvons-nous aller ailleurs? C'est la véritable Église. C'est là que Dieu nous conduit. Non pas à cause de ce que je dis ou de ce que dit M. Pack ou de ce que dit ou affirme un ministre de Dieu, mais parce que c'est ce que dit la Bible. Donc, si vous pouvez prouver que ce que vous entendez aujourd'hui est vrai, cela devient un autre moyen puissant de savoir que c'est la seule véritable Église de Dieu. Aucune autre Église, y compris les dissidents, qui détiennent plus de vérité que la masse des chrétiens dans le monde, ne comprend au moins certains éléments comme le sabbat, les jours saints, etc. Mais aucun des dissidents ne croit ce dont nous parlons aujourd'hui, car il s'accroche à une conception ancienne et erronée de la prophétie. Passons donc à certains des points les plus importants de la compréhension prophétique des 10 dernières années. Nous allons passer en revue quelques points du dernier sermon. C'est tout l'intérêt. Nous allons les passer en revue assez rapidement, car vous pouvez revenir en arrière, et je veux que vous reveniez en arrière et que vous réécoutiez ce message. Vous pouvez revenir en arrière et le réécouter. Je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps sur la révision, mais celle-ci est très utile pour ce message également. Vous constaterez que les points s'enchaînent les uns après les autres, et une fois que vous aurez posé les bases de certaines de ces doctrines fondamentales de la prophétie, elles s'appuieront les unes sur les autres et contribueront à se renforcer et à se consolider mutuellement au fur et à mesure que vous avancerez. Donc, pour comprendre où nous en sommes actuellement dans la prophétie, nous devons d'abord comprendre ce que nous croyons auparavant. Je vais utiliser quelques cartes ici qui montreront ce que nous croyons auparavant. Laissez-moi les placer rapidement. Nous croyons, imaginez maintenant. Excusez-moi. Imaginez que tout ce pupitre représente le millénium, les 1000 ans. Les 1000 ans commencent ici. Nous croyons qu'il y a 3 ans et demi avant le millénium, où la bête et le faux prophète, nous croyons toujours 3 ans et demi avant le millénium, mais mon argument est que nous croyons qu'il y avait seulement 3 ans et demi avant le millénium. Ce n'est pas ce que nous croyons, mais 3 ans et demi ont précédé les 1000 ans, et à la fin des 1000 ans, voici ce qui s'est passé. Toute l'humanité a ressuscité pour une période de 100 ans, après quoi Dieu est venu, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont apparus. C'est assez simple. C'est notre ancienne superstructure, si je peux m'exprimer ainsi. La superstructure dans la prophétie. 3 ans et demi ici avec la bête et le faux prophète, suivi du millénium. Ici, Christ est revenu et le millénium a commencé, et nous avons commencé à régner en tant que roi et prêtre pendant 1000 ans, et ce n'est qu'à la fin des 1000 ans que toute l'humanité a été ressuscitée pour une période de 100 ans, après quoi Dieu est venu, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont apparus. C'est ce que nous croyons autrefois. Nous allons démanteler systématiquement cette croyance et vous le prouver à partir de la Bible. Vous n'avez pas à me demander ou à remettre en question ce que je crois. Ce que je crois, c'est ce que Dieu dit. Commençons donc par revoir ce dont nous avons parlé la dernière fois. L'un des premiers points importants dont nous avons parlé n'aborde pas encore tout à fait ces questions. Au début de la série, nous avons appris qu'il existe une chose ou une personne appelée la huitième tête. Maintenant, à l'époque de l'Église mondiale de Dieu, et ce que nous enseignions dans les premières années de l'Église de Dieu restaurée, c'était qu'il y avait. Nous avons peut-être vu qu'elle existait, mais nous n'avions aucune explication à ce sujet. Nous croyons seulement qu'il y avait 7 têtes du Saint-Empire romain et que la 7e tête correspondait à la période de 3 ans et demi qui a précédé le millénium. Mais si vous passez rapidement au chapitre 17 de l'Apocalypse, nous allons simplement passer en revue chacun de ces quelques points. Nous allons passer en revue certains des points très importants avant, et très rapidement avant d'aborder de nouvelles preuves et d'autres preuves aujourd'hui. Apocalypse 17, reprenez au verset 8, « La bête que tu as vue était, elle n'est plus, et elle va monter de l'abîme, et elle ira à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre seront dans la stupéfaction, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Et quand ils verront la bête qui était, et qui n'est plus, et qui est, et voici l'esprit qui a de la sagesse. » Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, et il y a 7 rois. 5 sont tombés, un existe, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il viendra, il doit continuer pendant un court laps de temps. La septième tête ne continue que pendant un court laps de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, c'est lui qui est le huitième. La bête qui règne pendant 42 mois, nous le lirons dans le chapitre 13. Un peu plus tard, je vais juste y faire référence. La bête, la huitième tête, règne pendant 3 ans et demi. Nous n'avions pas d'explication sur la façon dont cette huitième tête existait. Mais maintenant, nous en avons une. Nous comprenons qu'il y a une huitième tête, qu'il n'y a pas seulement cette tête. Il n'y a pas seulement cette tête. Il y a une huitième tête. C'est une différence assez petite, mais assez grande entre ce que nous enseignons et ce qu'enseignent les groupes dissidents. Ils n'ont pas d'explication pour la huitième tête. Nous, oui. Parce que la parole de Dieu, vous savez, on ne peut pas faire comme Thomas Jefferson et supprimer des parties de la Bible. Tout est vrai. La question est, comment cela s'articule-t-il? Nous avons donc maintenant une explication pour la huitième tête. Une autre chose, et je dirais même l'une des plus grandes vérités que nous avons apprises dans cette série, est liée à la prophétie, mais pas seulement. C'est la nature de Dieu. Qui est Dieu? Ce Dieu est présent tout au long de la Bible d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Et je vais vous le prouver. Nous avons cru pendant des décennies que le Seigneur des armées dans la Bible pouvait être Christ, alors qu'en réalité, il est prouvé que le Seigneur des armées est le Père. Permettez-moi de vous citer quelques versets. Ouvrez votre Bible au deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Ce n'est qu'un rappel. Je passe rapidement sur ces points, car j'ai déjà donné un message complet à ce sujet, avec plus de détails. Vous pouvez donc revenir en arrière et l'écouter. Mais passons rapidement au deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 27. Maintenant, lorsque nous prions, et le monde le comprend, un grand nombre de personnes dans le monde comprennent que lorsque vous priez, vous ne priez pas Christ, vous ne priez pas Marie, vous ne priez pas Saint Christophe, quelle que soit la pratique catholique que vous avez. Les catholiques prient toutes sortes de personnes. Mais la plupart des gens comprennent et croient que lorsque vous priez, vous vous adressez à Dieu le Père, et c'est à lui que vous priez. Jésus est notre principal intercesseur. C'est par lui que nous prions, et Christ nous amène devant le Père, et nous nous tenons devant Dieu, et nous le prions. Ainsi, lorsque nous prions, lorsque vous voyez dans 2 Samuel 7 verset 27 qu'il est dit, car toi, Seigneur des armées. Notre question est la suivante, qui est le Seigneur des armées? Est-ce Dieu le Père ou Jésus-Christ? Dieu d'Israël. Bon, c'est un indice assez important qui montre qu'il s'agit en fait de Dieu le Père. Tu as révélé à ton serviteur en disant, je te bâtirai une maison, c'est pourquoi ton serviteur a trouvé dans son cœur de te faire cette prière, Seigneur des armées. À qui adressons-nous nos prières? Nous prions Dieu le Père. Et donc, chaque fois que nous voyons dans la Bible, je pourrais vous citer des dizaines d'autres passages qui parlent de la façon dont Ésaïe 37 parle de notre prière au Seigneur des armées. Jacques chapitre 5 en parle. Nous prions le Seigneur de Sabaoth. Je pourrais vous citer toutes sortes de passages qui prouvent que c'est au Seigneur des armées que nous adressons nos prières, et que nous prions Dieu le Père. Nous ne prions pas Jésus-Christ. Nous ne prions pas Marie ni personne d'autre. Nous prions Dieu. Ainsi, lorsque vous lisez le terme Seigneur des armées, c'est une grande découverte et une révélation pour nous tous. Il y a des années, lorsque nous avons appris cela, lorsque nous voyons le Seigneur des armées dans la Bible, c'est Dieu le Père. Vous vous demandez probablement, quel est le rapport avec la prophétie? Eh bien, il y en a un. Cette seule compréhension a permis de déchiffrer de vastes passages de la Bible. Voyons cela. Commençons par examiner certains de ces éléments ici. Nous croyons autrefois que Dieu le Père viendrait après la période de 100 ans suivant le millénium. Nous en sommes donc loin pour l'instant. Nous n'avons même pas encore atteint ce que nous croyons être cette période difficile précédant le millénium. Et il nous reste encore 100 ans avant de voir Dieu le Père, selon notre ancienne façon de penser. Est-ce exact? Eh bien, passons à Zacharie 14 et prouvons, maintenant que nous savons qui est le Seigneur des armées, prouvons quand le Seigneur des armées viendra. Combien d'entre nous ont déjà entendu parler de ce concept selon lequel les pieds se posent sur le mont des Oliviers, et celui-ci se fend en deux? Tout le monde en a entendu parler. Et tout le monde, vous pourriez être. Peu importe qui vous êtes dans le monde, vous savez que cela se produit ici, là-bas, pour commencer le millénium. Cela se produit avant le millénium. Cela ne se produit pas après le millénium. Lisons donc dans Zacharie 14, quelques versets simples. Verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et vos dépouilles seront partagées au milieu de vous, car je rassemblerai les nations contre Jérusalem pour la guerre, et la ville sera secouée, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, la moitié de la ville ira en captivité, et le reste du peuple sera retranché de la ville. Alors le Seigneur sortira. Quel Seigneur? De quel Seigneur parlons-nous? Le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme il combat au jour de la bataille, et ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est devant Jérusalem à l'est. Et elle se fendra en deux. Encore une fois, de quel Seigneur parlons-nous? Passons au verset 5, à la fin du verset 5, et le Seigneur mon Dieu viendra. Cela ne ressemble pas à Jésus-Christ, mais confirmons que ce n'est pas le cas. Le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec toi. Verset 6, et il arrivera, en ce jour-là, que la lumière ne sera pas claire un jour, etc. Verset 9, et le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un seul Seigneur, et son nom sera unique. Alors continuez à lire. De quel Seigneur s'agit-il? Verset 13. Et il arrivera en ce jour-là qu'un grand tumulte du Seigneur sera parmi eux, et ils se saisiront les uns les autres, chacun contre son prochain. Et ainsi de suite. Continuez à descendre, et nous y voilà. Verset 16. Et il arrivera que tous ceux qui resteront des nations qui seront venues contre Jérusalem monteront d'année en année pour adorer le roi. Nous venons de lire qu'il y avait un roi au verset, tout à l'heure, et ils adoreront le roi, le Seigneur des armées, et célébreront la fête des tabernacles. Et au verset 17, ils adoreront le roi, le Seigneur des armées, et il n'y aura pas de pluie sur eux. Le Seigneur des armées est celui dont il est question dans Zacharie 14. Ainsi, lorsque vous voyez ce grand Dieu debout sur le mont des Oliviers, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le Seigneur des armées. C'est Dieu qui vient. Alors pourquoi ne pas accepter cela? Nous pouvons maintenant croire, voir et prouver dans la Bible que Dieu vient bien avant cela. Il vient avant le millénium, et non après. Un autre élément de ce message, et du précédent, je n'entre pas dans les détails pour savoir exactement quand et comment les choses se passent ici. Je dis que ce que je prouve, c'est que l'ancienne façon de penser est dépassée et que certaines des choses qui se produisent ici, que nous pensions se produire ici, se produisent en fait beaucoup plus tôt, avant le millénium, et non après le millénium. Nous venons donc de le prouver, et il existe une multitude d'autres versets. Encore une fois, retournez écouter l'autre sermon que j'ai donné, qui aide à prouver davantage que Dieu le Père vient avant le millénium, et non après le millénium. Bon, maintenant, si vous y réfléchissez de cette façon, Ce point à lui seul distingue l'Église de Dieu restaurée de toutes les autres factions. Car si vous croyez, dans le cadre de votre doctrine, que Dieu ne peut venir qu'après une période de 100 ans, après le millénium, mais que vous et moi pouvons lire dans la Bible qu'il pose en fait ses pieds sur le mont des Oliviers avant le millénium et le divise en deux, alors il n'y a aucune excuse. Cette doctrine unique est enseignée par l'Église de Dieu restaurée et uniquement par l'Église de Dieu restaurée. Donc, si vous croyez au sabbat, au jour saint, à la dîme, à la consommation de viande pure et à l'abstinence de viandes impures, si vous croyez à toutes les doctrines fondamentales de Dieu, alors cette prophétie dont nous parlons nous distingue, l'Église de Dieu restaurée, de tous les autres groupes dissidents qui existent. Allons plus loin. J'ai dit que ces points s'appuient les uns sur les autres. Nous avons appris et lu au sujet du jour du Seigneur ici, dans Zacharie 14. Rappelez-vous, nous enseignions autrefois que le jour du Seigneur était une période d'un an. L'une des choses que nous avons apprises dans cette série, c'est que ce n'est pas le cas. Il s'agit en fait d'un jour du Seigneur qui dure une seule journée. Cela peut sembler assez élémentaire, mais nous enseignions autrefois que le jour du Seigneur était une période d'un an suivant 2 ans et demi de grande tribulation. Et ces 3 ans et demi combinés créaient l'image des 3 ans et demi de la bête et du faux prophète avant le millénium, ce que nous enseignions autrefois. Le problème est que la Bible explique que le jour du Seigneur est un seul jour, et vous pouvez le prouver, encore une fois, en commençant ici même, dans Zacharie. Zacharie 14, versets 6 à 8, décrit un seul jour. Tout d'abord, il l'appelle ce jour-là. Il ne l'appelle pas cette année-là. Il dit ce jour-là. Et ce jour-là, si cela ne suffit pas pour prouver que le jour du Seigneur est en fait un seul jour, et non une année entière, ce jour-là devient un jour très long. Maintenant, comment faire une année entière? Vous faites une année. Dieu a fait les années de telle sorte que vous devez avoir le jour et la nuit, 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 365 fois par an. Donc, si le soleil et la lune, par définition, s'arrêtent ce jour-là, vous ne pouvez pas continuer à avoir de plus en plus de jours. Vous ne pouvez pas faire une année. Il est impossible de faire une année à partir de cela. Le jour du Seigneur est un seul jour. Un seul jour. Encore une fois, je vais vite, mais la raison pour laquelle je vais vite est de mettre en place ce dont nous allons discuter en détail dans un avenir proche ici. C'est donc un autre point dont nous avons parlé. Le jour du Seigneur est un seul jour. Ce n'est pas quelque chose qui se produit pendant une année entière. Maintenant, une fois que vous avez prouvé que le Père est le Seigneur des armées, vous pouvez prouver qu'il vient avant le millénium, ce que nous avons fait. Et une fois que vous avez prouvé qu'il vient avant le millénium, vous pouvez comprendre correctement la nature du jour du Seigneur, qui est jour de Zacharie 14 que nous venons de voir. Allons donc plus loin dans la compréhension de ce jour. Ce qui suit est un autre changement radical par rapport à ce que nous enseignions auparavant, mais il est impossible de le manquer une fois que vous savez quand Dieu vient et qu'il vient au jour du Seigneur. C'est comprendre quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre viennent. Nous croyons auparavant que Dieu venait et que les nouveaux cieux et la nouvelle terre venaient bien après la période de 100 ans. Posons donc la question suivante, la logique voudrait que, si nous avons maintenant prouvé que Dieu vient bien avant, l'autre chose qui était liée à la venue de Dieu est cette chose appelée les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Se pourrait-il donc qu'elle suive Dieu et revienne avant le millénium, et non après? Passons au chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre. Je vais juste voir un verset rapide ici. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Excusez-moi, passons à Amos 9, je suis désolé. Amos 9. C'est mieux pour notre propos ici. Amos 9. Et le verset 5, un verset court et concis, dit ceci, et le Seigneur Dieu des armées est celui qui touche la terre. Oh là là, il y a un autre verset, le Seigneur Dieu des armées est celui qui touche la terre. Alors, touche-t-il la terre ici? Non, 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 nous lisons dans Zacharie 14 qu'il touche la terre ici. Que se passe-t-il? Verset 5. Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Verset 5. Et le Seigneur Dieu des armées est celui qui touche le pays, et il fondra. Le pays fond, et tous ceux qui y habitent se lamenteront, et il s'élèvera tout entier comme un fleuve et sera submergé, comme par le fleuve d'Égypte. Vous pouvez lire dans Ésaïe 24 et verset 23, pas besoin d'ouvrir votre Bible, mais il est également question du Seigneur Dieu des armées, quand il vient et règne sur le mont Sion, à ce moment-là, la lune est confondue, et le soleil est confus, et Dieu règne glorieusement devant ses anciens. Ainsi, lorsque vous voyez que la terre fond, une nouvelle terre, et lorsque vous voyez que les cieux noircissent, s'assombrissent et changent, dans Ésaïe 24, nous pouvons maintenant prouver que ces choses se produisent également lorsque Dieu vient, avant le millénium. Nous commençons donc à nous débarrasser de certaines de nos anciennes idées, et il nous reste maintenant quelques points à aborder. Toute l'humanité est ressuscitée. Maintenant, je suppose que toute l'humanité doit simplement attendre jusqu'à la fin du millénium et vivre d'une manière inexplicable sans temps là-bas. Eh bien, allons à Ésaïe 65 et commençons à aborder ce point. C'est là que, dans le dernier message, j'ai abordé ce point, mais j'ai dû aller assez vite parce que le temps m'était compté. C'est donc ici que nous allons commencer à ralentir un peu. C'est ici que nous allons commencer et prendre un peu plus de temps pour nous concentrer sur ces derniers éléments. Ésaïe 65 commence à mettre en place ce point. Quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre viendront. Cela conclut ce point, et il est dit ici, dans Ésaïe 65. Nous allons lire le verset 17, « Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins derrière un arbre. » Excusez-moi, je lis le verset 66. Désolé. Verset 17, car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Bon, nous y sommes. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, quand cela arrivera-t-il? Nous savons que cela arrivera lorsque Dieu le Père viendra, ce qui, comme nous l'avons prouvé, se produira avant le millénium. Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des premiers, et ils ne viendront plus à l'esprit, mais soyez heureux et réjouissez-vous pour toujours de ce que je crée. Car voici, je crée Jérusalem pour la joie, et son peuple pour l'allégresse. Et je me réjouirai à Jérusalem. Il ne s'agit donc pas seulement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, c'est. L'Apocalypse 21 parle également de la nouvelle Jérusalem qui viendra à ce moment-là. C'est ce que sont les nouveaux cieux, NH, la nouvelle terre, NE, la nouvelle Jérusalem, NJ. Mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse pour toujours à cause de ce que je crée. Je crée Jérusalem pour la joie et son peuple pour l'allégresse. Et je me réjouirai à Jérusalem et je me réjouirai dans mon peuple. Et on n'y entendra plus la voix des pleurs ni la voix des cris. La question qui se pose maintenant est la suivante, quand cette période de 100 ans a-t-elle lieu, et d'où vient cette idée que cette période de 100 ans suit le millénium? Pourquoi avons-nous cru cela autrefois? Eh bien, le seul verset biblique qui parle d'une période de 100 ans et que nous utilisons pour prouver cela, des citations prouvées, d'accord, nous étaient simplement cachées à l'époque. Ce n'est pas que nous étions malveillants ou que nous avions de mauvaises intentions. Non, simplement, Dieu cachait à nos yeux la vérité sur certains éléments de la prophétie afin qu'elle puisse être révélée à la toute fin, avant le retour de Dieu et du Christ. Alors, qu'est-ce que cette période de 100 ans, et d'où nous vient cette idée? Quelle était notre réflexion? Le seul verset que nous avons utilisé dans la Bible pour prouver cette période de 100 ans se trouve ici, au verset 19 et 20. Je me réjouirai à Jérusalem, je me réjouirai dans mon peuple, et on n'y entendra plus la voix des pleurs ni la voix des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons qui ne vivent pas jusqu'à ces jours, ni de vieillards qui n'aient pas rempli ces jours. Car l'enfant mourra 100 ans, mais le pécheur qui aura 100 ans sera maudit. Nous pensions, eh bien, nous devons avoir, nous savons que Dieu n'est pas un être maléfique. Nous devons faire venir toute l'humanité ici afin qu'elle puisse vivre 100 ans. Je veux dire, ce verset sur les 100 ans est là, mais pourquoi avons-nous cru qu'il était loin d'ici? Eh bien, notre logique à l'époque était que nous avions les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui arrivaient ici, et nous avions Dieu le Père qui venait ici. Et donc, quand vous lisez au verset 17 que ces 100 ans de vie sont liés à l'avènement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, que pouvions-nous croire d'autre que si nous croyions que les nouveaux cieux et la nouvelle terre venaient ici, nous devions y lier la période de 100 ans. Nous devions le faire. Il n'y avait pas d'autre option. Mais, mes frères, nous savons et avons prouvé que cela se passe ici, et non là-bas. Ma question est donc la suivante, comment pouvons-nous croire que le seul verset utilisé dans la Bible pour prouver qu'une période de 100 ans là-bas reste là-bas, alors que nous avons amené les nouveaux cieux et la nouvelle terre et Dieu le Père ici? C'est là que réside le problème. Laissez-moi vous expliquer. Cela demande une petite explication. Qu'est-ce que cela signifie? Je pensais que c'était la période de 1000 ans. C'est la période de 1000 ans. Mais quand l'humanité arrive, et nous allons garder cela très simple, très simple. Ceux qui vivent dans le millénium, qui ont traversé les 3 ans et demi de troubles avant cela, le royaume dans lequel nous entrerons, nous ne l'avons pas prouvé. C'est l'un des points importants qui nous sépare des dissidents, c'est qu'il n'y a pas seulement 3 ans et demi avant le millénium. Il y a 7 années complètes, et cette première moitié est bonne. C'est un royaume. Et nous le prouverons. Vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Mais comprenons bien. Ceux qui vivent pendant le millénium, ce que Dieu dit, c'est qu'ils n'ont pas seulement 100 ans ici-bas. Ils ont une durée de vie de 100 ans. Ils vivent jusqu'à 100 ans. Et qu'ils aient bien agi pendant le millénium ou non, qu'ils aient été de jeunes enfants qui ont grandi correctement ou qu'ils aient été des pécheurs et maudits à la fin de leur vie, vous pourriez être des enfants à un moment donné. À un moment donné, vous pourriez naître pendant le millénium. Vous commencez alors votre vie de 100 ans à ce moment-là. Vous pourriez naître plus tard pendant le millénium. Vous commencez alors votre vie de 100 ans. Vous pourriez naître bien avant cela. Vous commencez alors votre vie de 100 ans à ce moment-là. Les 100 ans indiquent donc simplement la durée de vie des gens pendant le millénium. Ce n'est pas très compliqué. Il ne s'agit pas d'une période de 100 ans à la fin du millénium. Il s'agit d'une durée de vie de 100 ans pendant le millénium. Et encore une fois, pourquoi le savons-nous? Parce que le seul endroit où il est question de 100 ans dans la Bible est immédiatement précédé par la discussion sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ces 100 ans sont intimement liés à ces nouveaux cieux et à cette nouvelle terre. Vous ne pouvez pas les mettre de côté. Ils doivent rester liés à la discussion sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. J'espère que c'est assez simple. Ce n'est pas un sujet très compliqué. La raison pour laquelle. Je vais le répéter, La raison pour laquelle cette période de 100 ans existait après le millénium était de ressusciter toute l'humanité et de lui donner l'occasion de vivre selon la voie de Dieu pendant son temps. Ainsi, ils se qualifieraient ou se disqualifieraient pour recevoir la vie éternelle après les 100 ans. C'était le seul verset. Le seul verset. Il n'y avait pas d'autre verset que nous utilisions pour prouver cela de manière définitive. Nous ajoutions d'autres éléments. Si vous croyez que la période de 100 ans du millénium était là, alors vous deviez croire que les nouveaux cieux et la nouvelle terre étaient là, et vous pouviez ajouter tous ces versets sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais le problème, c'est qu'il n'avait aucune explication. Vous ouvriez la Bible, et c'était très difficile à comprendre. Maintenant, c'est facile. Maintenant, nous lisons que Dieu vient. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre viennent. Les 100 ans de vie commencent dans le millénium, et c'est simple. Nous avons donc déjà prouvé, regardez ce que nous avons commencé à faire. Nous avons Dieu le Père avant le millénium. Nous avons les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui viennent avant le millénium. Nous avons cette durée de vie de 100 ans expliquée comme étant à travers le millénium. Maintenant, la seule question qui se pose est la suivante, Dieu laissera-t-il toute l'humanité ressusciter pour qui sait combien de temps encore? Nous n'avons même pas de durée. Dieu les laissera-t-il ressusciter après le millénium afin qu'ils puissent, quoi, vivre éternellement en tant qu'êtres humains? Que ferait-il? Comment cela fonctionne-t-il? Naturellement, mes frères, nous devons maintenant croire et comprendre que toute l'humanité doit également venir avant le millénium. D'accord? Eh bien, prouvons-le. Prouvons-le. Je le répète. Une fois que vous avez prouvé qu'il n'y a pas de période de 100 ans après le millénium, vous avez automatiquement avancé la résurrection des morts de toute l'humanité avant le millénium. Cherchons donc quelques autres versets qui peuvent le prouver sans équivoque. Passons au chapitre 1 de l'Apocalypse. La résurrection des morts est très intéressante, car vous allez découvrir. Laissez-moi juste déplacer ceci. Nous avons maintenant prouvé que toutes ces grandes choses qui étaient autrefois rejetées après le millénium précèdent désormais le millénium. Lorsque vous voyez ces 100 ans, considérez-les désormais comme 1000 ans. C'est peut-être la meilleure façon de voir les choses à ce stade. Dieu vient, de nouveaux cieux et une nouvelle terre viennent, et toute l'humanité est ressuscitée, d'accord? La question est, où toute l'humanité est-elle ressuscitée? Où sont-ils? Oh, excusez-moi. Où toute l'humanité est-elle ressuscitée? Très bien. Passons au chapitre 1 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Un verset simple. Lisons maintenant le verset 6. Dieu nous a fait rois et prêtres pour Dieu le Père. À lui soit la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Quand est-ce? Et ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il s'agit ici de Jésus-Christ. On pourrait aussi dire que Dieu le Père vient, mais ce passage décrit le moment où Christ vient pour commencer le millénium. C'est une interprétation très courante. Elle ne dépasse pas les limites de ce que croient la plupart des chrétiens, même dans le monde. Les dissidents y croient certainement. Les dissidents croient que Christ vient ici pour commencer le millénium. Cela ne diffère donc en rien de ce que nous avons toujours cru. Mais ma question à ce stade est la suivante. Lorsque Christ viendra à ce moment-là dans la puissance et la gloire pour commencer le millénium, pourquoi le verset 7 dit-il que tous les yeux le verront? Tous les yeux le verront. Eh bien, s'agit-il seulement des yeux de cette génération? Car ce que nous croyions auparavant, c'est qu'il y avait 3 ans et demi de grande tribulation et le jour du châtiment du Seigneur uniquement pour cette génération. Il n'y avait pas de résurrection des morts avant le millénium. Ainsi, la bête et le faux prophète concernaient uniquement la dernière génération d'êtres humains vivant sur terre. Et ceux qui avaient survécu à la bête et au faux prophète vivaient jusqu'au millénium, puis, dès le millénium se repeuplait avant qu'enfin, après le millénium, il y ait cette période de 100 ans où toute l'humanité est ressuscitée et se voit accorder 100 ans. Mais ma question est la suivante. Comment est-il possible, au verset 7, de dire qu'à ce moment-là, avant le début du millénium, lorsque Christ viendra, tous les yeux le verront, y compris ceux qui l'ont transpercé? Attendez une minute. Qui sont-ils? Êtes-vous en train de me dire qu'au début du millénium, les personnes qui ont transpercé Christ lors de sa mort et de sa crucifixion seront présentes? Comment avons-nous expliqué ce verset auparavant? Comment avons-nous pu expliquer que toute l'humanité se lèvera après le millénium alors qu'un verset aussi clair que celui-ci dit que les soldats romains, nous ne parlons même pas des Israélites, nous parlons des soldats romains qui ont transpercé Christ, seront présents et verront Christ revenir dans une grande puissance et gloire pour commencer le millénium. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Maintenant, lorsque nous lisons que tous les yeux le verront, nous savons que tous les yeux incluent le soldat romain, et vous pourriez dire, et tous les Romains, et tous ceux qui entouraient Christ à sa mort. Et, il est dit ici, toutes les tribus de la terre. Que signifient tous, mes frères? Pouvons-nous croire qu'il ne s'agit que d'une seule génération, mais que Dieu a peut-être fait une exception et ramené ce soldat romain à la vie? Non, bien sûr que non. C'est ridicule. Avant le millénium, Dieu a ressuscité toute l'humanité. Maintenant, que vous abordiez cela du point de vue de la venue de Dieu, ou du point de vue de l'avènement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ou du point de vue des 100 ans, ou même du point de vue de la résurrection de toute l'humanité, tout cela se produira avant le millénium. Frères et sœurs, c'est facile à comprendre. Ce n'est pas difficile. Je ne vous emmène pas vers des versets complexes. Je vous montre simplement que lorsque Christ viendra, ce que tout le monde croit se produire ici même, il y aura un soldat romain dans l'assistance qu'il aura transpercé. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les yeux le verront. Toutes les tribus de la terre se lamenteront lorsqu'elles le verront. Passons donc au chapitre 4 de Malachie, à la fin de l'Ancien Testament. Malachie 4. Voici un passage intéressant. On pourrait donc dire, bon, nous savons maintenant au moins que le soldat romain et toute l'humanité sont ressuscités ici même pour commencer le millénium. Nous savons que c'est au moins le moment le plus tardif où ils peuvent revenir, n'est-ce pas? Ma question est donc la suivante, est-il possible qu'ils reviennent avant cela? Et ils sont ici pendant une période précédant le millénium. Prouvons-le. Posons la question, puis prouvons-le. Nous savons donc qu'au moins le soldat romain voit Christ ici, mais lisons Malachie 4, verset 1, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Ce jour-là, pour le contexte, vous verrez qu'il est appelé le jour grand et redoutable de l'Éternel au verset 5. C'est un autre terme pour désigner le jour du Seigneur, qui est juste ici pour commencer le millénium. Ce n'est pas une période d'un an. C'est un jour du Seigneur qui se produit juste ici pour commencer le millénium. Voilà donc le contexte. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous ceux qui commettent l'iniquité seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Une fois que vous avez compris cela, Vous ne pouvez soudainement plus vous empêcher de le voir partout dans la Bible. Il est partout. La Bible est un livre sur Dieu. Nous avions l'habitude, à bien des égards, de penser que c'était un livre sur Christ, et pratiquement uniquement sur Christ. Nous savions que Dieu existait, mais nous ne pensions pas qu'il écrivait autant sur lui-même. Il est partout dans les Écritures. Et il ne leur laissera ni racine ni branche. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera, apportant la guérison dans ses ailes. Vous sortirez et vous grandirez comme des veaux dans l'étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, le jour où je ferai cela. Nous parlons ici du jour du Seigneur. Le jour où je ferai cela, dit le Seigneur des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui ai prescrite à Horeb pour tout Israël. Or, la loi était pour tout Israël. La loi était-elle seulement pour les Israélites qui vivaient à l'époque de Moïse et de Josué? Ou était-elle pour tout Israël? La loi était pour tout le monde, pour toutes les générations d'Israël, jusqu'à aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des Israélites sur terre, partout sur terre. Ils ne savent simplement pas qui ils sont. Cette loi leur a été donnée à tous. La question est donc de savoir quand elle entrera en vigueur. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'une malédiction. Dieu va réunir les familles, ou plutôt Élie va le faire, excusez-moi. Dieu va le faire par l'intermédiaire d'Élie, vraiment, c'est la meilleure façon de le dire. Dieu va réunir les familles en utilisant Élie avant le jour du Seigneur. Alors, comment pouvez-vous réparer les familles sans que toutes les familles soient de retour? C'est assez simple. À quel moment dites-vous, bon, vous avez réparé ces deux ou trois générations qui vivent à la fin des temps, vous les avez réparées. Mais toutes les nombreuses générations qui les ont précédées sont toujours en ruine, elles sont dans un état désastreux. Et nous allons les réparer après le millénium. Attendons la fin du millénium pour les réparer. Mais nous allons réparer les deux ou trois générations qui sont en vie aujourd'hui. Non, non, non. Quand il répare les familles, il les répare avant le jour du Seigneur. Les familles depuis Adam et Ève. Il va ramener le cœur des gens vers leurs proches, les enfants vers leurs pères, et les pères vers leurs enfants. Ainsi, mes frères, Élie fait cela avant le jour du Seigneur. Il vient, et toutes les familles doivent donc être ressuscitées, pas seulement au jour du Seigneur. Il ne peut pas réparer les familles et les ressusciter au jour du Seigneur qui avance. Pour réparer les familles, elles doivent être ressuscitées plus tôt. Maintenant, prouvons davantage que toute l'humanité se lève tôt, Jérémie 25. Jérémie 25. Chapitre fascinant. Le verset 30 établit le contexte dont nous parlons. Le verset 30 dit, c'est pourquoi. Jérémie 25 30, c'est pourquoi, prophétise contre eux toutes ces paroles, et dit-leur, le Seigneur rugira d'en haut, et fera entendre sa voix depuis sa demeure sainte, il rugira puissamment sur sa demeure, il poussera un cri, comme ceux qui foulent le raisin, contre tous les habitants de la terre. D'accord. Et un bruit viendra des extrémités de la terre, et ainsi de suite. Car le Seigneur a un différend avec les nations, il plaidera contre toute chair. Toute chair. Nous parlons ici du jour du Seigneur, Dieu plaidera contre toute chair, il livrera les méchants à l'épée, dit le Seigneur. Voilà donc le contexte que nous allons lire, et il est question de toute chair. Il plaidera contre toute chair, Mes frères, réfléchissez-y. Toute chair qui n'a jamais vécu a été ressuscitée ici pour commencer cette période de 7 ans dont nous allons parler dans un instant, d'accord? Mais revenons au verset 17 et remarquons quelque chose d'intéressante. Il est dit, au jour du Seigneur. Dit le verset 17, il prit la coupe de la main du Seigneur et fit boire toutes les nations auxquelles le Seigneur m'avait envoyé. À savoir Jérusalem, les villes de Juda, leurs rois et leurs princes. Attendez une minute. Combien de rois de Juda pouvez-vous avoir sur le trône à un moment donné? Il n'y a qu'un seul roi par nation. Vous ne pouvez pas avoir 4 présidents des États-Unis en fonction en même temps. Il n'y a qu'un seul roi de Jordanie. Il n'y en a qu'un à un moment donné. Donc, quand vous voyez ici, au verset 18, qu'il est dit que les villes de Juda et leurs rois vont prendre part à la coupe de la colère du Seigneur. Comment peut-il y avoir plusieurs rois de Juda présents en même temps? Eh bien, c'est parce que, mes frères, de nombreux rois de Juda ont existé au cours des siècles et des millénaires, mais ils sont tous réunis. Continuons à lire. Et ces princes, et les réduire en désolation, en stupéfaction, en sifflement et en malédiction, comme c'est le cas aujourd'hui. Pharaon, roi d'Égypte, ses serviteurs, ses princes, tout son peuple et tous les peuples mêlés, tous les rois du pays d'Uz. Combien y a-t-il eu de rois du pays d'Uz? Il n'y en a qu'un à la fois. Il ne peut y avoir plusieurs rois sur le trône en même temps. Il est donc question du retour de tous les rois. Tous les rois du pays des Philistins, d'Ashkelon, d'Ezaz, d'Écron, et les restes d'Ashdod, d'Édon, de Moé, des enfants d'Amon, et tous les rois de Tyr, tous les rois de Sidon, et les rois des îles au-delà de la mer, Dedan, Téman et Buz, les coins les plus reculés, et tous les rois d'Arabie, et les rois des peuples mélangés qui sont dans le désert. Tous les rois de Zimri. Je veux dire, cela continue encore et encore. Tous les rois du Nord. Mes frères, cela signifie que tous les rois du monde qui n'ont jamais existé sont de retour avant le jour du Seigneur. Alors, s'il vous plaît, quand nous lisons quelque chose d'aussi simple que « Dieu vient avant le jour du Seigneur », « Les nouveaux cieux et la nouvelle terre viennent avant le jour du Seigneur », cela devrait maintenant être assez simple pour nous de comprendre que, bien sûr, toute l'humanité doit également venir avant le jour du Seigneur. Mais ils ne viennent pas seulement le jour du Seigneur pour le millénium. Ils viennent bien avant le jour du Seigneur, pour une période que nous comprenons maintenant comme étant de 7 ans. Passons donc à cette dernière partie. Il nous reste deux points importants. Et le dernier est en fait, selon moi, l'un des plus fascinants. Mais je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi ou si vous en avez déjà parlé. Je sais que ce n'est pas quelque chose dont nous avons beaucoup discuté dans cette série, mais nous y reviendrons dans un instant. Tout d'abord, prouvons que lorsque tout Israël et toute l'humanité se présenteront avant le millénium, comment savons-nous? Depuis combien de temps sont-ils revenus? Sont-ils revenus 3 ans et demi avant le millénium? Sont-ils revenus 100 ans avant le millénium? Depuis combien de temps sont-ils revenus? Combien de temps avant le millénium sont-ils revenus? Passons au chapitre 9 de Daniel. J'espère que pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, qui ont rejoint cette série sur la prophétie tardivement, vous êtes venus assister aux offices du Seba et vous avez entendu toutes ces choses détaillées et complexes que M. Pack a abordées. En supposant que vous ayez des bases, j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre et saisir ce dont parle M. Pack. Et lorsque vous voyez les vases qu'il a placés là, vous pouvez mieux comprendre leur signification. Les 7 dans le millier, le royaume de 7 ans dans le millénium. Espérons que cela vous ait donné une base stable, qui vous soient utiles et qui vous permettent de ne pas vous laisser distraire ou bloquer par certains détails sans avoir d'abord cette base. Le chapitre 9 de Daniel aborde donc cette période de 7 ans. Lisons le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie, et oindre le Saint des Saints. Sache donc et comprends que, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Cela fait 62 semaines plus 7, soit 69 semaines au total. D'accord. Restons simples, car cela peut devenir un peu plus, nous entrons un peu plus dans les détails de la prophétie ici, mais je vais essayer de rester aussi général que possible. En gros, ce que Dieu dit au verset 24, c'est qu'il a en tête un plan de 70 semaines pour confirmer l'alliance avec tout Israël. Ce qu'il dit au verset 25 et 26, c'est qu'il a utilisé 69 semaines, si je peux m'exprimer ainsi. 69 semaines sur les 70, et il en reste une. Lisons donc cela. Après 62 semaines. C'est-à-dire après 62 semaines, mais 62 plus 7 font 69. Vous pouvez donc imaginer qu'il est dit, après 69 semaines, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même, et le peuple du prince qui viendra détruire à la ville et le sanctuaire, et la fin en sera comme un déluge, et jusqu'à la fin de la guerre, les dévastations sont déterminées. Et il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. C'est un autre verset qui montre qu'il va confirmer l'alliance avec plusieurs. Il va ramener toute l'humanité, c'est-à-dire plusieurs. Il va confirmer l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il reste une semaine. Maintenant, ce sont des semaines d'années, si je peux m'exprimer ainsi. Une semaine comprend 7 ans. Donc, les 69 semaines sont terminées, et elles se sont terminées comme il est dit lorsque le Messie a été retranché. Il s'agit là d'une erreur de traduction. Nous croyons autrefois que Christ, que cela faisait référence à la mort du Christ. Le problème est le suivant. Le mot retranché est le même mot qui signifie rompre une alliance. Il va conclure une alliance après 69 semaines. Il ne va pas conclure d'alliance après 69 semaines et demie, disons-le ainsi. Il ne va pas conclure d'alliance après 69 semaines et demie, il va rompre une alliance après que 69 semaines se sont écoulées. Donc, Christ, cela ne parle pas de, cela dit les 69 semaines, si je peux revenir au verset 25. Les 69 semaines se sont terminées à ce moment appelé le Messie, le Prince. Ainsi, lorsque Christ est devenu le Messie, le prince, ce qui s'est produit après son baptême, pendant les jours où il était dans le désert, etc. Il est donc devenu le Messie, le prince à ce moment-là. Considérez cela comme son baptême menant à la période où il a commencé son ministère. À ce moment-là, les 69 semaines étaient terminées. Et c'est en fait quelque chose qui a toujours été cru par l'Église mondiale de Dieu. Le problème est que l'Église mondiale de Dieu considérait que la première moitié de, que son ministère, les 3 années et demie suivantes de sa vie avant sa mort, comptaient dans cette prophétie des 70 semaines. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il va conclure une alliance pour une semaine supplémentaire. Il n'a pas conclu d'alliance avec les hommes au cours des premiers siècles. Il va faire revenir toute l'humanité et conclure une alliance pour 7 années complètes. D'accord. Permettez-moi de résumer. La semaine de 7 ans reste dans le plan de Dieu. La semaine de 7 ans reste dans le plan de Dieu. Tout le monde sait à quoi ressemblent les 3 dernières années et demie. Les trois dernières années et demie sont mauvaises. Les trois dernières années et demie sont marquées par la bête et le faux prophète, ainsi que par tous les troubles et la grande tribulation dont il est question tout au long de l'été du livre de l'Apocalypse. Tous ces événements se produisent au cours de ces trois mauvaises années et demie. Mais notre question ici nous amène à nous demander, que se passe-t-il pendant la première moitié? Si nous savons ce qui se passe pendant la mauvaise moitié, que se passe-t-il pendant la première moitié, pendant les trois premières années et demie? À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, la Bible est plus qu'explicite. Nous n'avons jamais rien su d'aussi simple que ce dont nous allons parler maintenant. Nous avons toujours cru que nous attendions toutes ces difficultés et ces troubles, la montée de la bête, la distribution de la marque de la bête, etc. Nous avons toujours cru que c'était la prochaine chose que nous attendions. Nous avions l'habitude de chercher 10 rois qui s'uniraient en Europe. Nous n'attendons rien de tout cela, mes frères, car c'est la deuxième moitié. C'est la mauvaise moitié d'une période de 7 ans. Nous attendons quelque chose 3 ans et demi avant cela. Ma question est donc la suivante, qu'attendons-nous? Attendons-nous cette mauvaise année? Ou s'agit-il de quelque chose de très différent? Revenons au chapitre 9 des Actes. Excusez-moi, au chapitre 1 des Actes. J'ai vu Daniel 9 et j'ai dit Acte 9. Acte 1, verset 6. Les disciples ont parlé avec Christ pendant environ 40 jours après sa mort et sa résurrection. Et nous arrivons ici au verset 4. Étant assemblés ensemble. Verset 3. Ils ont parlé avec Christ pendant 40 jours, lui parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu, étant assemblés ensemble avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, dit-il, vous avez entendu parler par moi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Quand ils furent donc réunis, ils lui demandèrent, en disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci ? » Les disciples se tenaient là avec Christ, lui demandant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ma question est la suivante, si nous attendons 3 ans et demi de tribulations, d'épreuves, de difficultés et de problèmes, pourquoi les disciples interrogeaient-ils Jésus au sujet de ce royaume d'Israël, comme s'ils croyaient que c'était la prochaine chose qu'ils allaient voir? Vas-tu rétablir le royaume d'Israël en ce moment? Comment cela est-il compatible avec l'attente de 3 ans et demi de grandes tribulations, du jour du Seigneur, de problèmes, d'épreuves, de bêtes et de toutes sortes de choses terribles qu'ils pouvaient lire dans les prophètes? Ce n'est pas compatible. Et le fait est que Christ ne les a pas réprimandés en leur disant, « À quoi pensez-vous? N'avez-vous pas été avec moi pendant toutes ces années et appris que la grande tribulation précède uniquement le millénium? » Non, la réponse du Christ a été, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons. Je ne vous le dirai pas. Je ne vais pas vous laisser comprendre quand ce royaume viendra en Israël. » Christ ne les a pas réprimandés pour leurs questions. Leurs questions étaient légitimes. Ils savaient qu'un royaume allait venir avant le millénium. Ils savaient que c'était ce qu'ils attendaient ensuite. Ils n'attendaient pas une grande et horrible épreuve de 3 ans et demi de grande tribulation. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient ensuite. Acte 3 ajoute, nous n'avons pas besoin d'aller là, mais je vais juste dire ceci. Acte 3, versets 19 à 21, ajoute que les disciples pensaient que Dieu et Christ viendraient d'abord pour cette restitution, aux côtés d'Élie. Donc, mes frères, il n'est pas étonnant que nous comprenions qu'il existe un royaume appelé Royaume d'Israël, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, il s'agit d'un royaume. Appelons-le simplement un royaume. Il existe un royaume qui précède la grande tribulation de 3 ans et demi. Maintenant que nous savons cela, les versets commencent à prendre tout leur sens dans la Bible. Considérez Osée 5. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible, mais je vais vous l'expliquer. Osée 5 parle de la période intermédiaire, la période de transition entre la partie royaume et la partie mauvaise. La partie bonne et la partie mauvaise. Osée 5 parle de ce mois qui va commencer à dévorer les gens, et la raison pour laquelle ce mois va commencer à dévorer Israël, c'est parce que c'est à ce moment-là que commence la captivité. C'est à ce moment-là que les gens commencent à, que la bête commence à prendre le dessus. Et pourquoi prennent-ils le dessus? Parce que Dieu dit qu'il se retire. Dieu se retire à ce moment-là. Donc, pour que Dieu se retire, il devait être activement à l'œuvre pendant un certain temps avant la moitié du royaume. Il devait être activement à l'œuvre avec les gens. Maintenant, je dirai ceci, ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre, qui restent là. Il y a des versets qui prouvent que Dieu le Père ne vient pas seulement au millénium. Il vient ici. Jésus-Christ vient également ici. Mais pour commencer cette période de 7 ans, ils viennent ici aussi. Ce n'est pas mon objectif d'entrer dans les détails. Mais je veux que vous compreniez que le but ici est simplement de prouver que ces grandes choses ne se produisent pas à la fin du millénaire, elles se produisent avant le millénaire. C'est l'objectif général. Mais cela ne veut pas dire que c'est la première fois que Dieu vient ou que c'est la première fois que Christ vient ici. Il y a de nombreux versets qui expliquent qu'ils peuvent venir ici aussi, mais ce n'est pas mon objectif d'entrer dans les détails. D'accord. Maintenant, le dernier point que nous allons aborder est que l'Église de Dieu, c'est le dernier point pour aujourd'hui, l'Église de Dieu s'est toujours concentrée sur la prophétie. Ce message vise à prouver que c'est la véritable Église de Dieu à travers la prophétie. Nous utilisons la prophétie comme moyen. Vous pouvez prouver que c'est la véritable Église de Dieu de nombreuses façons différentes, mais ce sermon utilise la prophétie pour prouver que c'est la véritable Église de Dieu. Parce qu'aucune autre Église sur terre n'enseigne ce que nous enseignons. Nous sommes la seule Église. Nous sommes la seule Église dans le paysage fragmenté. Toutes les autres Églises fragmentées n'enseignent rien de similaire à ce que nous enseignons. Nous avons démantelé ce qu'enseignent les Églises fragmentées. Et je pense que c'est très simple, en utilisant des versets très simples, et mes frères, croyez-moi quand je vous dis cela, j'aurais pu citer 30 fois plus de versets sur tous ces sujets dont nous parlons. Beaucoup. Beaucoup plus. Beaucoup plus de preuves de tout ce dont je parle aujourd'hui, mais nous n'avons tout simplement pas le temps. Il y a une limite raisonnable et naturelle, comme le dit M. Pack. Mais l'Église de Dieu parle de prophétie. En quoi cela prouve-t-il qu'il s'agit de la véritable Église? Le fait que nous, dans l'Église de Dieu restaurée, nous intéressions autant aux prophéties et la preuve que c'est la véritable Église de Dieu. Mais attendez une minute. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Beaucoup de groupes dissidents ne parlent pas de prophétie. Ils acceptent ce qu'ils ont toujours cru. L'ancienne idée selon laquelle il y a une période de 100 ans après le millénium. Qu'il n'y a pas de royaume avant le millénium. Ils acceptent simplement ce qu'on leur a enseigné il y a de nombreuses décennies. Mais même aujourd'hui, ils n'en parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup de prophéties. La vie chrétienne est importante. La vie chrétienne est très importante. Mais si vous ouvrez Matthieu chapitre 6, que dit-il? Matthieu 6. Verset 33 dit ceci, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Si nous passons autant de temps à nous concentrer sur la prophétie, c'est parce que c'est ce que font les chrétiens. C'est ce que font les chrétiens. Si nous devons rechercher en premier lieu le royaume de Dieu par-dessus tout, on pourrait dire que la prophétie devrait être au premier plan de nos préoccupations quotidiennes. Et comment le savons-nous? Parce que plus tôt dans ce chapitre se trouve le modèle de prière. Matthieu 6, verset 10, dit ceci, verset 9, Priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Dieu veut que le royaume soit au premier plan de nos pensées. Il veut que la prophétie soit au premier plan de vos pensées et des miennes jour après jour. C'est une prière que nous devrions réciter quotidiennement. Ce n'est pas écrit, mais c'est la forme. C'est la manière. C'est la façon dont Christ a dit, Priez ainsi chaque jour. Et il a commencé par que ton règne vienne. Est-il étrange que nous parlions régulièrement de prophétie? Eh bien, ce n'était pas étrange, car du point de vue du Christ, celui-ci veut que nous parlions et réfléchissions régulièrement à la prophétie. Passons au chapitre 1 de la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1. J'y arrive. Très bien. Au verset 10, verset 9, vous allez obtenir le salut de vos âmes, ce salut que les prophètes ont recherché et étudié avec soin, eux qui ont prophétisé la grâce qui vous était destinée. Nous lisons donc ici, au verset 11, cherchant quel était le temps ou le moment que l'Esprit de Christ, qui était en eux, indiquait lorsqu'il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre. Les prophètes ont donc parlé à la fois des souffrances du Christ. Cela avait été prophétisé, mais ce n'est qu'une prophétie accomplie. Mais ils ont également prophétisé la gloire qui devait suivre. Réfléchissez-y. Ils ne prophétisaient pas seulement des choses qui se produiraient au premier siècle et qui ne seraient accomplies que par Christ, mais aussi des choses qui seront accomplies par Christ et qui sont encore à venir. La gloire. La gloire du royaume qui viendra bientôt, la gloire du millénium, la gloire de Dieu le Père, toutes ces choses prophétiques étaient sur les lèvres des prophètes. Mais le verset 12 est fascinant. Il dit, à qui il a été révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils ont annoncé les choses qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Chose que les anges désirent contempler. Les anges veulent aussi comprendre ces choses, mes frères. Mais Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, qui n'étaient pas en mesure de s'en enquérir, comme nous le lisons au verset 10, a donné aux prophètes le salut, ils ont cherché avec diligence, mais Dieu ne leur a pas donné de le comprendre pleinement. Mais ils l'ont donné aux apôtres. Il existe aujourd'hui un apôtre moderne qui comprend et explique les vérités de la prophétie à nous tous. Dieu utilise la même méthode qu'il utilise depuis des milliers d'années, travaillant par l'intermédiaire des prophètes pour expliquer les choses et pour que les apôtres nous expliquent à tous aujourd'hui les nombreuses vérités de la prophétie. Ainsi, mes frères, nous pouvons en être très reconnaissants. C'est une nouvelle preuve que c'est la seule véritable Église de Dieu. Qu'y avait-il sur les lèvres et dans l'esprit des prophètes? Ils recherchaient avec diligence les choses de la prophétie que vous et moi avons le privilège, à la fin des temps, d'être prêts à recevoir pour nous-mêmes. Et nous les recevrons également à un moment donné. Nous verrons les prophètes. Mais ils ont recherché avec diligence ces choses. Ils ont examiné à la fois le quoi et le comment du temps, le quand, si je peux m'exprimer ainsi. Tout comme nous examinons le quoi et le quand de la prophétie. Recherchant quoi, verset 11, ou quel genre de temps l'Esprit du Christ, qui était en eux, signifiait. Est-il étrange que nous examinions à la fois le quoi et le quand? C'est ce que les prophètes ont toujours fait. Pouvez-vous penser à un prophète de l'Ancien Testament qui n'ait pas parlé de prophétie dans son livre? Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, tous les prophètes mineurs. D'accord, peut-être Jonas. Peut-être Jonas. Mais cela signifie-t-il que Jonas n'a jamais parlé de prophétie ou qu'il n'en a jamais parlé du tout? Bien sûr que non. Mais il n'a simplement rien écrit dans son livre concernant la prophétie. Il a écrit certaines choses sur Ninive. Mais les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé sans cesse. Même en remontant très loin, pensez aux prédicateurs de la justice. Nous savons qu'ils ont existé, nous savons qu'ils étaient des hommes de Dieu très tôt dans l'existence de l'humanité. Mais quelle est la seule chose qui n'ait jamais été rapportée par les prédicateurs de justice? Ouvrez votre Bible à Jude. Jude 15, verset 14. Qu'ont dit les prédicateurs de justice? La seule chose qui ait été rapportée est celle dite par Enoch. Et Enoch, le septième depuis Adam, a aussi prophétisé à leur sujet, en disant, « Voici, le Seigneur vient avec ses saintes myriades. » Il parle de ce qui va se passer au début du millénium. Pour exercer le jugement sur tous et pour condamner tous les impies parmi eux pour leurs actes impies qu'ils ont commis de manière impie et pour toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. Ajoutons simplement ceci. Voici un autre verset qui prouve en quelque sorte que toute l'humanité est également de retour. Enoch a prophétisé que le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exercer un jugement sur tous. D'accord. Comment tous signifie-t-il tous? Mes frères, je pourrais vous emmener. Je vais faire un petit exercice rapide. Je vais vous montrer à quel point les prophéties sont fréquentes dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament. Elles sont présentes dans tous les écrits. Je vais faire quelque chose que je risque fort de regretter maintenant, à savoir ouvrir ma Bible à un livre du Nouveau Testament et vous montrer à quel point les prophéties sont fréquentes dans le Nouveau Testament. Voyons voir. Bon, j'ai ouvert l'Apocalypse. Eh bien, c'est facile. C'est une évidence. Je ne veux pas faire cela. C'est trop facile. Il y a bien sûr des prophéties dans l'Apocalypse. Ouvrons Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens 4 parle de prophéties. Dieu parle de prophéties tout au long de sa parole. Regardez cela. La page même que j'ai ouverte, j'espérais que cela fonctionnerait, et cela a fonctionné. J'ai ouvert ma Bible au chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Cela montre à quel point la Bible parle souvent des disciples et des apôtres du Nouveau Testament, etc. Ils parlaient tout le temps de prophétie. Et nous pouvons le prouver en ouvrant une page au hasard dans le Nouveau Testament et en regardant Colossiens 3, 4. Paul parlait de la façon dont, lorsque vous êtes mort et que votre vie est cachée avec Christ et Dieu, lorsque Christ, qui est votre vie, apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3 verset 4. Et vous pouvez faire cela pour toutes sortes de livres différents. Si vous ouvrez Philippiens, vous verrez des prophéties. Si vous ouvrez Corinthiens, vous verrez des prophéties. Si vous ouvrez Romains, vous verrez des prophéties. Dans Hébreux, ouvrez Hébreux. Tout le monde parlait tout le temps de prophéties. Donc, lorsque nous parlons tout le temps de prophétie, cela prouve en fait que c'est la véritable Église de Dieu. Si nous ne parlions pas de prophétie, nous devrions en fait nous demander, suis-je dans la bonne Église? Dieu m'a-t-il appelé dans la bonne organisation? Dieu dirige-t-il réellement cette organisation si elle ne pense pas aux choses qui vont arriver dans un avenir proche? Hébreux chapitre 11, verset 10. Par la foi, verset 9, Abraham séjourna dans la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, il y a longtemps, cherchait une ville lointaine. Il cherchait le royaume. Il voyait régulièrement des prophéties dans son esprit. Ainsi, frère, Paul, à maintes reprises, dans Acte 1, il a parlé pendant 3 ans, il a supplié les frères, les avertissant au sujet de ces loups qui allaient venir, dans la prophétie. Parce qu'il était profondément convaincu de ce qu'il croyait. Et frères, j'espère qu'aujourd'hui, nous tous, à elle, pouvons être profondément convaincus de ce que c'est, et de ce que nous enseignons dans la prophétie, parce que cela vient de la parole de Dieu, et donc, être profondément convaincus que c'est la seule et unique véritable Église de Dieu. Aucune autre organisation n'enseigne ces choses. J'espère que ce sermon a été stabilisant. Nous avons couvert certains des points les plus fondamentaux des 10 dernières années qu'aucune autre Église n'enseigne, mais qui sont pourtant des vérités fondamentales de la prophétie. Et nous devons garder à l'esprit la vue d'ensemble. Dans l'esprit de ce que M. Pack a récemment donné dans son sermon sur le souvenir, nous ne devons jamais oublier ces éléments généraux de la prophétie qu'aucune autre organisation n'enseigne. Et si nous le faisons, nous ne quitterons jamais la seule véritable Église de Dieu, l'Église que le Dieu de l'univers a créée et à laquelle il révèle ses connaissances si précieuses, juste avant son retour.